Merci beaucoup, Julie. Merci d'être là un samedi après-midi. Comme vous pouvez le voir, le titre de la conférence, « Les risques de la vie, perception et réalité ». Et je pense que c'est approprié de parler justement des risques et de la perception qu'on a des risques, surtout avec ce qui se passe avec le virus H1N1. S'il y a une grande différence, et je pense que certains d'entre vous ont vu la conférence de Amir Raz, vous avez vu la différence entre ce qu'on perçoit et en fin de compte quelles sont les réalités. Mais avant d'aller un peu plus loin, je voudrais passer juste quelques minutes pour vous dire quelques mots au sujet de l'Organisation pour la science et la société, qui on est à l'Université McGill. Je suis professeur de chimie et j'ai pas besoin de vous dire que nous, les chimistes, nous avons un problème d'image. C'est de cette façon-là qu'on est perçu par le public en général. Vous savez, on a les sarraux blancs, on a des éprouvettes qui nous sortent des poches. D'ailleurs, certaines personnes pensent que nous, les chimistes, nous sommes une espèce complètement différente de toutes les autres. Et c'est pour ça que, il y a quelques années de ça, pas mal d'années de ça, avec mes deux collègues, le professeur Schwartz et le professeur Hamm, nous avons fondé l'Organisation pour la science et la société. Comme vous pouvez le voir, ça c'était quand on était jeune et plein d'enthousiasme. Maintenant, on est moins jeune. Mais on est toujours aussi enthousiaste et on a toutes sortes d'activités à Montréal, au Québec, au Canada et en fin de compte à travers l'Amérique du Nord. Et dans ce cadre-là, on donne toutes sortes de conférences comme la science contre les faussaires, la science au service de l'art, la chimie de l'amour, des choses qui sont assez passionnantes, la chimie du vin. Je viens de France, donc ça c'est un sujet qui m'intéresse, parce que c'est bien connu que nous les Français, on s'intéresse seulement en deux choses dans la vie, et une de ces deux choses c'est le vin. Alors, ce qu'on vous a donné au départ, c'est des clickers, et j'ai pensé que ce serait intéressant pour vous de voir comment ça fonctionne, parce que de plus en plus ici, à McGill, on donne à nos étudiants ces répondeurs, et ça leur permet de participer, et ça nous permet aussi de déterminer si nous les touchons, si ce que nous enseignons est à leur niveau, s'ils comprennent ce dont on parle. Alors, je vais commencer par voir si vos clickers marchent, et pour cela, je vais vous poser une question. C'est le genre de question que je pose à mes étudiants. Vous savez, des fois, je donne des cours, et puis je leur dis, vous vous rappelez dans ce film-là, et le film, et ça c'est des films qui m'ont marqué moi, mais bien sûr c'est une autre époque, et ça fait vraiment, c'est intéressant de voir si vraiment ils connaissent ces films-là. Alors on va voir quel âge vous avez. Oui, allez-y, comme vous voulez. Pardon? Il y a une petite lumière qui clique quand vous appuyez dessus. Okay. Mais je vois, vous voyez, ça fonctionne. Je ne sais pas si vous voyez, il y a 16 personnes qui ont déjà répondu. Et puis, vous avez le droit de changer d'avis.
C'est quoi le nom en anglais?
The Graduate. The name of the lead actor in The Graduate. OK? Alors, combien? Ça aussi, ça nous permet de voir combien il y a d'étudiants en classe. Alors. Attendez. Il y a une petite lumière qui clignote quand vous appuyez dessus. Ouais. Okay. Alors, vous voyez, j'ai fait un mail maintenant. Et j'ai vos réponses. OK. Et je peux vous dire à mes étudiants s'ils ont raison ou pas. Donc, en fin de compte, deux tiers d'entre vous, oui, c'est un autre groupe d'âge, c'est pas mal, deux tiers d'entre vous, vous savez que c'est Dustin Hoffman qui était l'acteur principal dans le lauréat. Il y a quelques autres qui pensent que c'est Tom Cruise, mais c'est une autre génération. Alors, commençons vraiment avec ce dont je veux vous parler aujourd'hui, les risques de la vie. Et je vais commencer par une autre question. Une question qui est vraiment très importante. Réfléchissez bien. Êtes-vous heureux? Très heureux, heureux entre les deux. Malheureux, très malheureux. Alors. Vous voyez, ça va assez vite. On peut ajuster le temps de réponse. OK, vous voyez que... Il y a à peu près trois personnes ici qui sont très malheureux. Ouh. Mais malgré tout, ça fait plaisir de voir quand même qu'une majorité d'entre vous, vous vous sentez soit heureux, soit très heureux. La raison pour laquelle je pose cette question, c'est à cause de ce monsieur que je respecte dans d'autres temps, David Suzuki. Il fait des très très bons programmes à la télévision, mais malheureusement, à mon avis, il a une attitude qui est très pessimiste vis-à-vis de l'humanité. Il fait partie de ce qu'on appelle les apocalyptiques. Il voit tout d'une manière très négative. Et récemment, dans une interview, il a mentionné la chose suivante. Alors que j'approche de mes 73 ans, ça c'était l'année dernière, donc c'est 74 ans maintenant, je me demande si le monde est un meilleur endroit que lorsque je suis né. Lorsque je pense à ce que nous laissons à nos petits-enfants, ma réponse est un non absolu. Alors, c'est vraiment intéressant de... Les gens ont tendance à parler continuellement du bon vieux temps. Vous entendez toujours parler du bon vieux temps. Ben, laissez-moi vous dire que le bon vieux temps, ce n'était pas la joie. Le bon vieux temps, c'était des choses comme la fumée, comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des gaz à effet de serre, mais ça, c'était encore pire. Le bon vieux temps, c'était vraiment de la pollution. Ça s'est passé en 1952 à Londres. Il y a eu un épisode de pollution, de smog, comme il l'appelle, qui a duré une semaine. Cette photo a été prise au milieu de la journée. Et c'était tellement opaque qu'il y avait une personne devant les autobus qui marchait avec un drapeau pour guider le chauffeur d'autobus. Ça, c'était le bon vieux temps. Hein? Le bon vieux temps, c'était la choléra. L'eau était, qu'on parle de la qualité de l'eau aujourd'hui, ça c'était le bon vieux temps quand les gens mouraient de choléra. Vous vous rendez compte qu'en 1970, la rivière Cuyahoga, près de Cleveland, était tellement polluée, c'est que la rivière elle-même a pris feu. Elle était tellement polluée à cause des huiles, la rivière a pris feu. Ça c'était le bon vieux temps. Le bon vieux temps, c'était quand Montréal n'avait pas d'usine d'épuration d'eau. Avant 1984, quand vous tiriez la chaîne de des toilettes, où est-ce que ça allait? Directement dans le Saint-Laurent. Ça, c'était le bon vieux temps. Le bon vieux temps, c'était aussi quand il n'y avait pas d'antibiotiques. Les gens ne se rendent pas compte que les antibiotiques, c'est relativement quelque chose de récent. Quand j'étais un enfant, il n'y avait pas d'antibiotiques. Les antibiotiques ont été vraiment introduits à la fin des années 1940, au début des années 1950. Ça, c'était le bon vieux temps. Aujourd'hui, on a peur de la qualité de nos aliments, mais malgré tout, avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments, il y a certains contrôles. Dans le bon vieux temps, il n'y avait absolument pas de contrôle. C'était très courant pour les boulangers d'ajouter du plâtre à la farine, hein, pour que l'affaire durer plus longtemps pour gagner de l'argent. Et il n'y avait pas moyen de contrôler ça. Et il y a un épisode très, malheureusement, très célèbre qui a eu lieu en Angleterre, c'est qu'un boulanger n'a pas trouvé de plâtre, mais il a trouvé une poudre blanche qui ressemblait au plâtre. Alors, au lieu de l'utiliser du plâtre, qu'est-ce qu'il a utilisé? De l'arsenic. Et plusieurs dizaines de personnes sont mortes. Ça, c'était le bon vieux temps. Alors, si on vous donnait le choix, Monsieur le professeur Suzuki, vous donnez le choix. Préférez-vous vivre aujourd'hui ou il y a 73 ans? Je vous donne l'occasion de répondre avec votre clicker. Oui. C'est assez indicatif de quelle est la situation. Alors, ce que je voudrais faire, c'est vous parler de la notion de risque, mais en utilisant l'exemple de la nourriture. Parce que quand on demande, c'est certain qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent du virus H1N1, Mais en général, on trouve que les gens s'intéressent à la qualité de leur nourriture. C'est un des sujets les plus préoccupants, c'est chez ces gens-là. Donc, j'ai décidé de prendre ce concept de risque, de perception de risque, en parlant de la nourriture. Alors, c'est certain, quand il s'agit de nourriture, on est constamment bombardé par des manchettes qui font peur, parce que les manchettes qui font peur, ça vend. Et je ne sais pas si vous en souvenez, ça c'était il y a quelques années, ça a fait la manchette de la presse au sujet d'une cire qui contenait de la morpholine, soi-disant qui serait toxique. En fin de compte, il n'y avait pas de danger là-bas, mais le mal a été fait. On a été bombardé de coups de téléphone du public, de pomiculteurs, qui se demandaient ce qu'il y avait là-dedans. Et finalement, la presse a corrigé le tir. Elle a admis que ce n'était vraiment pas dangereux. Mais où est-ce que la correction a été? En page 5. Ce qui fait peur fait les manchettes, les corrections ne font pas. Alors d'un côté, on a tous ces produits dangereux dans notre nourriture, et d'un autre côté, on a tous ces aliments miracles. Alors ce n'est pas étonnant que le consommateur ne sait plus à quel sein se vouer. Et un autre problème, c'est, nous les scientifiques, nous sommes en partie responsables, nous bombardons le public d'études, et d'études qui sont contradictoires. Pour certains d'entre vous qui ont un certain âge ici, vous peut-être vous souvenez qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, il y avait cette panique au sujet du café. On avait trouvé une association, on va voir là ce que c'est, une association entre la consommation de café et le cancer du pancréas. Tout le monde était affolé parce que tout le monde boit du café. Enfin, beaucoup de gens boivent du café. Quelque temps après, on a montré que cette étude, en fin de compte, ça n'avait pas été une très bonne étude, ce n'était pas très concluant. Quelque temps après, on a trouvé qu'en fin de compte, il y avait quelque chose dans le café qui prévenait le cancer. Et finalement, juste récemment, des expériences avec des souris ont montré que la caféine peut aider à prévenir le cancer de la peau. Seulement si c'est badigeonné sur la peau des souris. Okay? Alors, vous voyez, c'est les gens qui sont soumis, les personnes qui sont soumises à ce genre d'informations contradictoires, ils disent, vous les scientifiques, vous ne pouvez pas vous mettre d'accord. Alors, c'est très important que quand vous voyez une étude, ne paniquez pas tout de suite. Attendez que d'autres études soient venues confirmer ce que l'on vous dit. Et aussi, c'est très important de voir d'où vient l'étude. Si ça vient d'un journal comme le New England Journal of Medicine ou JAMA, à ce moment-là, vous pouvez lui porter crédence. Mais si ça vient des annales de l'Ouzbékistan, moi, je ferai plus attention. Mais peut-être que le café, c'est bon pour la santé. En fin de compte, au Japon, ils pensent que le café, c'est bon pour la santé. Ils prennent des bains de café. Okay? Ils font chauffer des grains de café et ils se mettent dedans et ils pensent que le café chaud comme ça, et je veux dire, dans lequel on peut se baigner, c'est bon. Alors, un des gros problèmes qu'on a, c'est le fait que les gens sont très peu informés. Ils ont des opinions, mais ne sont pas aussi bien informés qu'ils devraient l'être. Prenons l'exemple des aliments génétiquement modifiés. Okay? Laissez-moi vous demander, quelle est votre opinion à ce sujet? À votre point de vue, le développement des OGM est quelque chose de très positif, positif. Vous n'avez pas d'opinion, très négatif ou négatif. Alors, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez une opinion. Alors, ce serait intéressant de voir qu'est-ce que vous pensez justement au sujet des OGM. Oui, c'est pas mal partagé du point de vue des opinions. Mais c'est important d'avoir une opinion, mais il faut avoir une opinion basée sur de bonnes informations, une opinion basée sur des connaissances. Et il y a quelques années, on a fait des études pour voir ce que les gens savaient vraiment sur les OGM. Au moment où il y avait on en parlait énormément, les gens avaient des très fortes opinions, mais qu'est-ce qu'ils savaient? On a demandé entre autres la chose suivante, et vous pouvez répondre, manger des OGM peut modifier vos propres gènes. Oui ou non? Qu'en pensez-vous? Manger des OGM peut modifier vos propres gènes. Okay. Je suis content de voir que la majorité d'entre vous ont bien répondu à cette question. C'est impossible que ça modifie nos propres gènes. Mais regardez, à cette époque-là, au Canada, près de deux tiers des personnes ont répondu oui, une mauvaise réponse. Aux États-Unis, c'était 61%. En France, vous voyez, ils sont plus intelligents en France, 52% des gens ont répondu oui. Après, ils sont passés aux tomates et ils ont demandé aux personnes, est-ce que ceci est vrai? Les tomates ordinaires ne contiennent pas de gènes, alors que les tomates génétiquement modifiées en contiennent. OK? Vous voyez, encore à peu près la même proportion. Bien sûr, c'est faux, mais remarquez encore une fois que c'est un peu meilleur, mais quand même 52% des Canadiens et des Américains à peu près ont répondu la même chose. Encore les Français se démarquent là-dessus, mais quelque chose de faux. Peut-être ces gens-là avaient vu le film « The Attack of the Killer Tomatoes ». Combien d'entre vous ont vu ce film? Alors, c'est un film extraordinaire qu'il faut voir. C'est encore plus important en français. L'attaque des tomates tueuses. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu ce film, c'est des tomates génétiquement modifiées qui prennent d'assaut un supermarché et après prennent d'assaut toute la ville. Quelque chose d'absolument fascinant. Alors, ce qui se passe, c'est que quand il s'agit de la nourriture, les personnes voient les choses soit en noir et blanc. Ça ne peut jamais être du noir et blanc, c'est toujours un peu entre les deux. Et quand vous évaluez une nouvelle technologie, ça c'est pour tout, c'est pas seulement pour la nourriture, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de regarder quels sont les risques et les avantages et d'être certain que les avantages surpassent les risques. Et par exemple, maintenant, avec le vaccin contre le virus H1N1, c'est ce qu'il faut faire aussi, de voir quels sont les risques et quels sont les avantages. Souvent, on pourra en parler après, mais c'est des choses comme ça. Par exemple, beaucoup de gens ont peur de prendre l'avion. Et la raison pour laquelle ce genre de choses a lieu, c'est qu'on se fait à des risques auxquels on a l'habitude. Okay? On se fait des risques auxquels on a l'habitude, mais ceux qu'on ne connaît pas, on a tendance à les rendre beaucoup plus importants. Et pourtant, depuis que l'aviation a été créée en 1914, il y a eu 15 000 morts à travers le monde, depuis 1914, en tout, dans tous les pays du monde. Chaque année, en Amérique du Nord, seulement en Amérique du Nord, il y a 150 000 morts dans des accidents d'automobile. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Et cette mauvaise perception peut avoir de graves conséquences. Par exemple, après l'attentat du 11 septembre, il y a eu 1 000 morts supplémentaires sur les routes nord-américaines. Pourquoi? Les gens ont eu peur de prendre l'avion, ils ont pris la voiture à la place. Et bien sûr, la voiture est beaucoup plus dangereuse. Alors, c'est ce genre de choses qu'il faut connaître avant de prendre des décisions. Très rapidement, puisqu'on parle beaucoup du virus H1N1, on reçoit continuellement des courriels au sujet de la dangerosité du vaccin. Et les gens me disent, oui, mais j'ai entendu dire que ça peut donner le syndrome de Guillain-Barré en français. Okay? C'est ça, Guillain-Barré. C'est une maladie neurologique. Okay? Et c'est vrai, il y a ce risque. Mais c'est un risque très, très faible. Quelque chose comme 1 sur 1 million ou 1 sur 10 millions de personnes vaccinées. C'est très, très faible. Par contre, de ne pas être vacciné augmente le risque. Parce que le risque d'attraper ce syndrome de Guillain-Barré à la suite du virus est 40 fois plus élevé. Alors, il y a deux risques, mais un est beaucoup plus élevé que l'autre. C'est ça qu'il faut voir, c'est de cette manière-là qu'il faut voir. Alors, des fois, les risques ne sont pas où vous vous l'imaginez. Chaque chose que vous prenez et que vous faites, vous assumez un risque. Par exemple, en venant aujourd'hui, écouter cette conférence, vous avez assumé un risque. Vous auriez pu vous faire frapper par une voiture en traversant la rue. Mais vous vous êtes dit, le plaisir d'écouter Ariel Fenster vaut bien ce risque. Vaut bien ce risque. Il y a des risques auxquels on ne s'attend pas. Par exemple, savez-vous que les distributrices de boissons gazeuses représentent un risque? Les distributrices de boissons gazeuses tuent en moyenne combien de personnes par an en Amérique du Nord? Vous n'avez pas d'idée. En fin de compte, la bonne réponse est 3 personnes. Ça ne veut pas dire que soudainement les distributrices de boissons gazeuses commencent à attaquer les gens. Vous pouvez vous imaginer ce qui se passe. Quelqu'un met de l'argent dans la distributrice, rien ne sort, commence à la secouer, la distributrice la tombe dessus. Et bien sûr, ça peut tuer une personne. C'est pour ça que sur les distributrices, vous allez voir, en cas de dérèglement, appeler le réparateur. Mais on m'a dit qu'aux États-Unis, ils ont été obligés d'ajouter la mention suivante. Alors, comment évaluer les risques? Comment savoir de quoi il faut vraiment avoir peur? D'abord, il faut se rendre compte, le principe de base de toxicologie, c'est la dose ne fait pas le poison. Sola dosis facet venenum, Paracelsus, 16e siècle. Prenons un exemple. Il y a quelque temps, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a eu cette manchette, l'eau embouteillée contient une substance toxique. Waouh, ça fait vraiment peur. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait de l'antimoine. L'antimoine est toxique, c'est certain. L'antimoine est utilisé comme agent catalyseur dans la fabrication du plastique de la bouteille. Et de petites quantités se retrouvent dans l'eau. Mais à quelle concentration? Les concentrations sont de l'ordre de parties par milliard. Alors, qu'est-ce que ça représente une partie par milliard? Un ppb en anglais, party per billion. C'est une seconde sur 32 ans. Okay. Laissez-moi vous poser cette question à ce moment-là. Une personne devrait boire combien de litres d'eau avant d'atteindre la dose mortelle d'antimoine? Et cela sans aller aux toilettes parce que c'est très rapidement éliminé. Okay. Effectivement, c'est 250 litres. Sans aller aux toilettes, ce n'est pas évident. Mais, bien sûr, cette question en amène une autre. Hein? Allez-y, réfléchissez. Effectivement, 10 litres d'eau. L'eau est toxique. Et malheureusement, peut-être certains d'entre vous, vous souvenez de ce cas en Californie, où cette pauvre dame est morte après avoir bu 8 litres d'eau. Ça faisait partie d'un concours. Qui c'est qui arriverait à boire le plus d'eau sans aller aux toilettes? Et ça, le prix, c'était un oui. Et ça, vous savez, le jeu vidéo. Et ça s'appelait « Hold your pee for a wee ». Et cette pauvre dame qui voulait absolument ce jeu pour son enfant, après 8 litres d'eau, est morte. Et chaque année, il y a des gens qui meurent de boire trop d'eau. En particulier dans les parties rave, rave party. Ils dansent toute la nuit, ils boivent continuellement. Et ce que ça fait, ça change la concentration de minéraux dans le corps. Et ça peut amener la mort à cause, entre autres, de crise cardiaque ou d'embolie cérébrale. Donc, l'eau peut enfin tuer. Une autre chose qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que corrélation ne signifie pas nécessairement causalité. Quand deux choses arrivent en même temps, ça ne veut pas dire que l'une est reliée à l'autre. Par exemple, prenons l'exemple du cancer. Est-ce que l'incidence du cancer est en hausse? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui attrapent le cancer. Et la bonne réponse, oui. Okay. Et il y a une explication très simple pour ça. Regardons les causes de décès, les premières causes de mortalité en 1900 par rapport à aujourd'hui. Dans les années 1900, les causes de mortalité, c'était les maladies infectieuses, la pneumonie et la tuberculose. Ces maladies ont été conquises grâce aux antibiotiques. Maintenant, de quoi meurt-on ? Malheureusement, on doit mourir de quelque chose. On meurt de maladies cardiaques et de cancers. Mais on meurt beaucoup plus tard. On meurt beaucoup plus tard. L'espérance de vie dans les années 1900 était à moins de 50 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 80 ans. Et en fin de compte, le cancer, c'est une maladie de vieillesse. Plus vous vivez vieux, plus vous avez de chances de mourir de cancer. Et dites-moi ce que vous en pensez de cette phrase. Une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, augmente les chances de mourir de cancer. Okay. Une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, augmente les chances de mourir de cancer. Réfléchissez. Vous vivez plus vieux, donc vous avez plus de chances de mourir de cancer. Vous voyez? Ce n'est pas toujours ce qu'on s'imagine. Hein? Ça protège, mais vous mourrez malheureusement, éventuellement, vous êtes constamment soumis à des radicaux libres, des composés dans l'environnement, éventuellement, ça va prendre le dessus. Alors, laissez-moi retourner. Ça vient de la Société canadienne du cancer. Okay? Et ça vous montre, en rouge, les nouveaux cas de cancer pour les femmes. Okay? Et vous voyez que ça augmente. En chiffre absolu, de plus en plus de gens meurent de cancer. Mais la manière dont il faut voir ça, ce sont les taux normalisés à l'âge. C'est de voir dans chaque groupe d'âge, est-ce qu'il y a plus de gens qui meurent de cancer. Et ce que vous voyez en noir, qu'est-ce que vous remarquez? Que les taux normalisés, en fin de compte, sont relativement stables. C'est qu'en fin de compte, c'est vrai qu'il y a plus de gens qui meurent de cancer, mais essentiellement, c'est parce qu'on vit plus vieux. Par groupe d'âge, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à ce que c'était. C'est certain, il y a certains cancers, on ne le sait pas pourquoi, qui sont en augmentation. Par exemple, le cancer de la thyroïde. On ne sait pas pourquoi ce cancer en particulier, il y en a plus qu'il y en avait. Mais quand vous prenez tous les cancers, en fin de compte, c'est assez stable. Alors, prenons les facteurs de risque, par exemple, pour le cancer du sein. Ça, c'est quelque chose d'important. Est-ce que vous croyez que ça, c'est un facteur de risque? Les risques de cancer du sein augmentent avec la richesse. Plus vous êtes riche, plus vous avez de chances d'attraper le cancer du sein. Vrai, faux, ou vous ne savez pas? Les risques de cancer du sein augmentent avec la richesse. Et c'est vrai. Il y a quelques années, il y avait une épidémie de cancer du sein, on appelle ça un cluster de cancer du sein sur l'île de Long Island, au sud de à l'extérieur de New York. Et beaucoup de femmes étaient atteintes, enfin beaucoup, plus que la normale étaient atteintes. Et bien sûr, il y a eu énormément de pression de savoir pourquoi. C'est des régions où les gens sont aisés, où ils ont des grandes maisons, ils ont du gazon. La première chose auquel on a pensé, ce sont les pesticides. Donc, on a fait des études très avancées. En fin de compte, ça a duré 10 ans. Ils ont dépensé 30 millions de dollars pour cette étude. Et la seule corrélation qu'ils ont trouvée, qui avait du sens, c'était la richesse. Plus les gens étaient riches, plus ils avaient de chances d'attraper le cancer. Alors, regardons pourquoi. Quels sont les facteurs de risque pour le cancer du sein? C'est l'âge, les antécédents familiaux, l'obésité et une mauvaise nutrition. D'où viendrait le fait que la richesse, c'est aussi un facteur de risque. Mais le fait est, c'est que plus vous êtes riche, plus vous avez des enfants tard et moins vous avez d'enfants. Et ça, c'est une question d'hormones. Okay? Plus vous avez de périodes menstruelles, plus vous avez des risques d'attraper le cancer. Dans les pays en voie de développement où ils ont beaucoup d'enfants, où ils ont les enfants jeunes, ils ont, le taux de cancer est beaucoup plus faible. Donc, une manière de se protéger du cancer du sein, c'est d'avoir des enfants et d'avoir des enfants jeunes. Ça, c'est un facteur de risque. Ce n'est pas le plus grand facteur de risque, mais c'est un facteur de risque. Le moins d'enfants que vous avez et le plus tard vous avez vos enfants, plus vous êtes au risque de développer le cancer du sein. Je ne veux pas causer une baisse de natalité au Québec, okay? Mais c'est certain que ça, c'est un facteur. Une autre chose à regarder, c'est que souvent, vous allez voir, ce composé cause le cancer. Mais comment on détermine qu'un composé, une substance, est carcinogène ou cancérigène? La manière dont c'est fait, c'est avec des études avec des animaux. On leur donne ce composé à grande quantité sur une courte période de temps. Mais est-ce que c'est applicable à l'être humain? Alors, regardons l'exemple du colorant rouge numéro 3. Le colorant rouge numéro 3, c'est le colorant qu'on retrouve dans les cerises maraschino cherries, vous savez, dans les cocktails ou dans les salades de fruits. Méfiez-vous de tous ces aliments qui sont très, très colorés. Ça, c'est des colorants artificiels. Pas qu'ils sont particulièrement dangereux, mais on n'en a pas besoin. Et dans ce cas-là, moi, je dirais que les risques, même s'ils sont très minimes, sont beaucoup plus importants que les avantages. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des études où on donnait à des rats des grandes quantités de ce colorant rouge numéro 3. Et on a trouvé qu'en grande quantité, ça augmentait les risques de tumeurs de la thyroïde chez les rats mâles. Pas chez les rats femelles, juste chez les rats mâles. On ne sait pas pourquoi, juste chez les rats mâles. Mais ce qui est important de savoir, c'est sous quelles conditions ça augmentait les risques. Combien devait-on donner de colorant rouge aux rats mâles pour qu'ils attrapent ces tumeurs? Alors, rappelez-vous que on retrouve le colorant rouge dans les cerises qu'on trouve dans les cocktails de fruits. Alors, du point de vue humain, ça aurait été équivalent pour une personne de manger 14 000 portions quotidiennes de salade de fruits pendant 70 ans. Quelles sont les chances que vous ne vous tanniez pas de la salade de fruits? Et c'est intéressant que c'est seulement sous ces conditions-là que les rats mâles développaient les tumeurs de la thyroïde. Vous savez, des fois je vais chez Costco et puis les petites dames qui nous donnent des échantillons nous disent, vous savez monsieur, il n'y a pas de produit chimique là-dedans. Il n'y a pas de produit chimique là-dedans. Je dis, mais qu'est-ce que vous me donnez? Est-ce que vous me donnez du vide ou quoi? Bien sûr, tout est fait de produits chimiques. D'ailleurs, quand on a lancé l'Organisation pour la Science et la Société, on avait de la nourriture, on avait des fruits pour les invités, et par-dessus, on avait mis des panneaux. Nous vous garantissons que tous ces produits ne contiennent que des produits chimiques et rien d'autre. Alors, disons par exemple que vous croquez dans une pomme. Vous croquez dans une pomme. Qu'est-ce que vous goûtez quand vous croquez dans une pomme? Ça, c'est quelques-uns des 500 composés chimiques qui sont responsables du goût d'une pomme. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très difficile de faire des saveurs artificielles. Parce que les saveurs artificielles ne sont pas causées par un composé chimique, mais par des centaines de composés chimiques différents. C'est pour ça que les saveurs artificielles ne sont jamais comme la vraie chose. C'est très difficile de le faire. Saviez-vous que dans les pommes, il y avait de l'acétone, le produit pour enlever le vernis à ongles? Saviez-vous que dans les pommes, il y avait de l'éthanol, de l'alcool? Mais vous n'allez pas vous saouler en mangeant des pommes. À moins que vous en mangez beaucoup, beaucoup. Tous ces produits-là sont présents, mais dans des quantités absolument infimes. Rappelez-vous, c'est la dose qui fait le poison. Beaucoup de gens disent, vous savez, dans les cosmétiques, il y a de la formaldéhyde. De la formaldéhyde, waouh! On sait que la formaldéhyde, c'est un cancérigène. Il y a de la formaldéhyde, mais dans quelle quantité? Savez-vous que quand vous mangez des pommes, vous mangez des produits cancérigènes? Ça fait peur. Mais bien sûr, il y a beaucoup plus de produits anticancérigènes dans les pommes que de produits cancérigènes. Et c'est ça qui les neutralise. Les gens s'imaginent que cancérigène, c'est automatiquement synthétique. Il y a beaucoup plus de produits cancérigènes dans la nature que de produits cancérigènes synthétiques. C'est certain que le nom que vous voyez sur vos étiquettes, des fois, ça fait peur. Par exemple, si au lieu de dire de l'eau, vous y direz de l'hydrogène dioxyde, ça fait beaucoup plus peur. Mais ce n'est pas parce que c'est des noms qui sont courants que c'est meilleur pour la santé. Regardez la liste des ingrédients dans la soupe Lipton au poulet et aux nouilles. Waouh, il y a des nouilles là-dedans. Le deuxième, c'est du sel, du chlorure de sodium. Ça, je peux dire que c'est un additif alimentaire qui est dangereux. Totalement naturel, mais dangereux quand même. Une autre chose que je trouve étrange, c'est cette phobie qu'on a des agents de conservation. Sans agents de conservation. Est-ce que c'est meilleur parce que ça n'a pas d'agents de conservation? Bien sûr que non. Les agents de conservation, en général, jouent un rôle important. Par exemple, ce pain, j'appellerai pas ça du pain, c'est du chewing-gum. Ce pain, qu'est-ce qui se passe sans agents de conservation? Pas très appétissant. Et qu'on doit se rendre compte, c'est que beaucoup des agents de conservation qu'on utilise sont d'origine naturelle. Par exemple, le propionate de calcium est dérivé de l'acide propionique, et l'acide propionique, c'est l'agent de conservation naturel dans le fromage suisse. Et c'est pour ça, vous voyez, ils disent, ne contient pas d'agent de conservation. Le fromage suisse, Swiss cheese, n'a pas besoin d'agent de conservation parce qu'il fait son propre agent de conservation. Et beaucoup d'agents de conservation que nous utilisons viennent du fait qu'on les a retrouvés dans la nature. Par exemple, si vous regardez sur de la confiture, vous allez voir benzoate de sodium. Waouh, benzoate de sodium, ça fait peur. Mais en fin de compte, l'acide benzoïque, c'est l'agent de conservation naturel dans les canneberges. Les canneberges font leur propre agent de conservation et c'est ce qu'on met dans la confiture. Alors, c'est certain, c'est une question de choix. Par exemple, si vous achetez votre pain tous les jours comme ils le font en France, vous n'avez pas besoin d'agent de conservation. Mais il y a peut-être une autre raison pourquoi en France, ils n'utilisent pas d'agent de conservation dans leurs baguettes. Saviez-vous que l'acide propionique, l'agent de conservation, il est présent dans la sueur humaine. Et savez-vous comment les Français ramènent leur pain à la maison? Alors, il y a cette notion naturelle. Les gens s'imaginent, parce que c'est naturel, c'est meilleur pour la santé. Mais naturel n'est pas synonyme de plus grande sécurité. Le beurre d'arachide, c'est des composés naturels. Il y a plus de gens qui sont morts. En fin de compte, il n'y a personne qui est mort de ces agents de conservation dont on parle. Zéro. Mais combien de gens meurent à cause d'une réaction aux protéines qui sont présentes naturellement dans le beurre d'arachide? Naturelles, des protéines naturelles. Par exemple, la rotenone est permise dans la production des aliments bio. Mais en fin de compte, on a trouvé un lien entre la rotenone, qui est naturelle, et la maladie de Parkinson. Naturelle ne veut pas dire automatiquement meilleur. Je trouve ça amusant, les gens veulent des couleurs naturelles. Pas que ça soit dangereux, mais des fois c'est intéressant de savoir d'où viennent ces couleurs naturelles. Savez-vous d'où vient le rouge cochenille? Chaque fois que vous prenez une crème glacée, pas toutes, mais par exemple des crèmes glacées à la fraise, aux cerises, d'où ça vient qu'ils sont bien rouges? Ça vient des cochenilles. Un petit insecte, on prend la femelle, on l'écrase, on fait un jus, et c'est ça qui est utilisé comme colorant. Alors, quand vous mangez du salami, vous prenez du Campari, vous prenez de la crème glacée, pensez à ça. Pensez que c'est ces petits insectes qui ont donné leur vie pour vous donner la couleur. Il y a un petit côté amusant là-dedans, c'est qu'on utilise seulement la femelle. La raison pour ça, c'est que, en fin de compte, le colorant est présent dans les œufs de la femelle. Mais il y a une autre explication, c'est que ces insectes vivent sur des cactus. Et quand on vient de les collecter, ce qui se passe, c'est que le mâle a des ailes, la femelle n'en a pas. Alors le mâle courageusement s'envole, laissant la femelle sur le cactus pour être transformé en jus. Nourriture bio. Combien d'entre vous mangez bio? Oh, intéressant. Rarement. OK. Aux États-Unis, ça c'est des figures américaines, 25% des consommateurs achètent de la nourriture bio au moins une fois par semaine, bien qu'il n'y ait absolument aucune évidence que celle-ci soit meilleure pour la santé. Beaucoup d'études ont été faites à ce sujet. Du point de vue santé, ça n'a absolument aucune différence. Je veux dire, apport de nutriments, etc. C'est 50% plus cher en moyenne. C'est certain qu'il y a moins de résidus pesticides synthétiques, mais on peut en avoir des naturels. On a vu que naturel, ce n'est pas automatiquement meilleur. Mais il n'y a absolument aucune différence. Où ça peut faire une différence, c'est que c'est meilleur pour l'environnement. Parce que ceux qui font pousser du bio, en fin de compte, font beaucoup plus attention à leur environnement. Alors, de ce côté-là, il y a un côté positif. Mais rappelons-nous qu'aujourd'hui, la nourriture bio est aussi produite à grande échelle et il y a des problèmes. Ça, c'est un cas où il y a des épinards bio qui ont empoisonné pas mal de gens avec la bactérie E. coli. Alors, de quoi faut-il vraiment avoir peur dans la vie? Où sont vraiment les risques? Le tabagisme? Risque numéro un dans la vie. La seule chose qu'on peut dire au sujet du tabac, la bonne chose qu'on peut dire au sujet des gens qui fument, c'est quand ils fument, ils n'ont besoin d'avoir peur de rien d'autre. Et une petite anecdote, là, c'est que une fois j'ai donné cette conférence, enfin pas cette conférence, c'est une conférence sur les OGM, où j'essayais de faire la part des choses. Et une des personnes était tellement en colère, il trouvait que je prenais le parti des Monsanto et tout ça, c'est pas le cas. Il est sorti en courant, mais j'ai remarqué qu'en sortant, il a sorti ses cigarettes, il a allumé la cigarette. Il avait peur des OGM, vous voyez? Alors ça, c'est un problème. Le tabagisme, et on parle beaucoup du cancer du sein chez les femmes. La cause principale de décès due au cancer chez les femmes est le cancer. Ça me fait plaisir de voir que 15% des gens ont dit de la prostate. En fin de compte, du poumon. Le poumon est de loin. Okay? On ne se rend pas compte que plus de femmes meurent de cancer du poumon que n'importe quel autre cancer. C'est certain que le cancer du sein est le premier cancer chez les femmes, du point de vue de l'incidence des cancers. Mais de quoi on meurt, c'est le cancer du poumon. Et ces chiffres-là font peur. Quand vous voyez, ça c'est la mortalité cancer du poumon chez les hommes. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? C'est numéro un. Mais vous voyez, c'est assez stable. Regardez ce qui se passe chez les femmes. En hausse, continue. Les femmes ont commencé à fumer beaucoup plus tard, mais étant donné que ça prend 30-40 ans pour un cancer de se développer, maintenant on a des problèmes. Alors, l'obésité est un autre problème dans ce cas-là. Alors, justement, quand on parle d'obésité, ça c'était une manchette au sujet des boissons gazeuses. Risque associé aux boissons gazeuses. C'est dans la canette et c'est un produit chimique. Produit chimique, automatiquement, c'est dangereux. Mais quel était ce produit chimique? De quoi parlait-il? Il parlait du bisphénol A. Mais pour moi, quel est le produit chimique qui est vraiment dangereux dans les canettes de boissons gazeuses? Absolument. Okay? On boit, alors qu'en 1980, on buvait 75 litres de boissons gazeuses par an. Aujourd'hui, on en boit 115. Et dans une canette de boissons gazeuses, il y a 10% de sucre. 11 cubes de sucre. Si vous mettiez 11 cubes de sucre dans votre café, les gens vous diront, ça ne va pas. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Moi, ce que je trouve qui m'inquiète beaucoup dans notre nourriture, c'est la manière dont c'est produit, la nourriture industrielle. Et ça, ça n'a rien à voir que ce soit bio ou pas bio, c'est produit à grande échelle. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir ce film, Food Inc., Vous n'avez plus jamais mangé de poulet après ça, okay, je dois vous prévenir, mais c'est vraiment un film qui est très très intéressant de voir la comment la nourriture est produite en Amérique du Nord. Et ça, c'est pour moi, c'est un grand problème. Savez-vous que 50% des antibiotiques qui sont utilisés en Amérique du Nord ne sont pas donnés aux gens, ils sont donnés aux animaux. Ils sont donnés aux animaux parce qu'ils poussent plus vite, ils grandissent plus vite avec moins de nourriture. Ça, c'est des choses qui sont très inquiétantes. Et la raison pour laquelle ça a lieu, c'est qu'on veut produire notre nourriture le meilleur marché possible. Et bien sûr, il y a des conséquences à ça. Prenons cet exemple. Quel est le pourcentage d'agriculteurs dans la population active? Moins de 2% de la population active nourrit toute la population du Canada. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'utiliser tant de produits chimiques. Ils sont obligés d'utiliser des produits comme des antibiotiques, etc. Et ça, c'est le prix qu'on a à payer. Quel est le pourcentage de notre revenu qui va à l'alimentation au Canada? On a la nourriture la meilleure marché au monde, du point de vue de pourcentage de notre revenu. Regardez par rapport à d'autres pays. Mexique, 25%. En Inde, 50% de leur revenu va à la nourriture. Ça, c'est les prix à payer. C'est ça ce qu'il faut voir. Alors, pour terminer, qu'est-ce qui est vraiment bon pour la santé? Le message que vous devez partir avec. Okay. Une nourriture variée, beaucoup de fruits et de légumes, du poisson, la nourriture colorée qui contient des agents anticarcinogènes, lycopène par exemple aussi, et puis bien sûr le vin. Okay. Les anciens savaient que le vin était bon pour la santé, les Romains déjà le disaient. D'ailleurs, Galien disait « Enivrez-vous au moins une fois par mois ». Et le poète Pétron disait « Le vin vit plus longtemps que l'homme ». Buvons donc comme des éponges, car le vin, c'est la vie. Alors, en fin de compte, en France, ils appliquent cette notion très sérieusement. Et quand je préparais cette conférence, je suis tombé sur un livre fascinant. Enfin, un livre d'un docteur français qui, pour lui, on n'a pas besoin de médicaments, tous les médicaments sont dans le vin. Mais c'est important de choisir le bon vin pour la maladie appropriée. Non, c'est pas sérieux. Alors, vous voyez que vous avez vraiment le choix. Mais c'est certain que pour les maladies cardiaques, le vin offre des avantages, ça a des antioxydants. C'est certain que les Français ont le taux de maladies cardiaques le plus bas de tous les pays industrialisés, à part le Japon. Okay? Mais ça ne veut pas dire qu'ils vivent plus longtemps. Ils meurent de maladies différentes. Par exemple, la cirrhose du foie, vous voyez. Oui. Alors, ça c'est une étude qui a été faite récemment, enfin il y a 3 ans de ça. Ils ont pris des rats obèses et ils ont trouvé que si on leur donnait ce composé chimique qui est présent dans le vin, le resveratrol, ils arrivaient à survivre plus longtemps, bien qu'ils aient été obèses. C'était comme une assurance. On pouvait manger de tout, manger beaucoup, être obèse, mais si on prenait du resveratrol, c'était OK. Alors, ça c'est vrai, mais combien de resveratrol prenait-il? À quel équilibre, du point de vue équivalence, combien faudrait-il pour nous de boire de verres de vin ou de bouteilles de vin par jour pour avoir la protection équivalente? C'est peut-être pour ça qu'en France, il commence très tôt le matin. Alors, je voudrais vous laisser ce message. Il ne faut pas trop s'affoler. Il faut manger une nourriture variée, beaucoup de fruits et de légumes, un verre de vin, pas en prendre plus, un ou deux verres de vin par jour, et vous allez vivre le plus longtemps qu'on peut vivre jusqu'à présent. Alors, j'espère que vous avez eu les bonnes informations. C'est très important de faire de bons choix dans la vie, mais ce n'est pas toujours facile de faire les bons choix. Alors, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Sinon, n'oubliez pas, en sortant, de remettre le clicker dans la boîte qui est là-bas. Okay.